ou bien que nous sommes ni un garçon, ou bien nous sommes ni un garçon et ni une fille. Voilà l'identité souple que le monde nous propose, et en fonction des pensées de la société, les choses évoluent. Le monde promeut quoi d'autre ? Il promeut une appartenance réversible, c'est-à-dire une appartenance qui n'est pas définitive. On peut s'en approcher, on peut s'en éloigner, puis y revenir selon les moments, les besoins ou les contextes. Dit d'une autre façon, c'est une appartenance que l'on peut modifier, quitter ou bien réactiver. Alors l'opposé, c'est une appartenance irréversible, c'est-à-dire qui est définitive et de laquelle on ne sort pas au gré des circonstances. Aujourd'hui, par exemple, il n'est pas rare de voir des femmes et des hommes politiques changer de parti politique au fil de l'eau, changer de parti au fil de ce que on peut leur proposer. Et le monde promeut aussi une fidélité conditionnelle, c'est-à-dire une fidélité qui dépend de certaines conditions. Par exemple, quand tout va bien dans mon couple, je reste fidèle. Tant qu'il n'y a pas de nuage entre ma femme et moi, je reste aussi fidèle. Mais l'opposé de la fidélité conditionnelle, c'est la fidélité absolue. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je reste fidèle, même si notre conjoint peut nous décevoir, même si les circonstances dans notre vie de famille, dans notre entreprise, dans notre école sont contraires. Et donc cela, qu'est-ce que ça peut engendrer pour nous les croyants ? Ça peut engendrer, je pense, trois choses, trois attitudes. Premièrement, ça peut engendrer une foi instable. Quand le croyant est bousculé par le monde et sa façon de penser, sa foi peut défaillir. Soyons honnêtes, nous avons tous, un jour ou l'autre, été confrontés à la défaillance de notre foi. Je pense que chacun d'entre nous, ce matin, est capable de répondre à la positive à cette question, à cette affirmation. Et qu'est-ce qui permet de l'affirmer ? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Et en particulier, un grand homme de Dieu appelé Jean-Baptiste. Matthieu 11, versets 2 et 3, il est dit « Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya deux de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et pourtant, Jean-Baptiste est celui qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors, remettre en question sa foi, c'est tout à fait normal, parce que nous ne pouvons remettre en cause que les choses que nous croyons. On remet en question ce que nous croyons et en quoi nous croyons. Si on réfléchit deux secondes, une bonne crise de foi est aussi salutaire, car elle nous permet de revoir sur quoi est basée notre croyance, sur quoi est basée notre confiance. Jean a remis en question sa foi en Jésus car il savait qui était Jésus. Mais il a douté quand, dans sa vie, les circonstances étaient sombres et contraires pour lui, puisque c'est depuis sa prison, puisqu'il avait été emprisonné pour avoir dit la vérité sur le roi qui avait pris la femme de son beau-frère, je crois. Bref, il a pris la femme qui n'était pas la sienne, et Jean l'a dénoncé, et ça lui a valu d'être emprisonné. Quand les circonstances sont difficiles dans nos vies, c'est vrai que c'est à ce moment-là que nous aussi, nous remettons en question notre foi. Les conséquences de ce que le monde promeut, ça peut être aussi une peur du coût. Le coût de notre engagement avec Christ peut être élevé, à savoir jusqu'à donner notre vie. Jean-Baptiste a persévéré jusqu'au bout sans jamais changer d'appartenance, c'est-à-dire sans renier Jésus-Christ, et il en a payé le prix fort. Plus près de nous, nous avons nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi en Christ. Et parfois, ils le payent de leur vie, car ils décident de rester fidèles à leur appartenance à la famille de Dieu. Et troisième point, ça peut aussi être une difficulté à persévérer. C'est vrai que le monde n'incite pas à la persévérance. Au contraire, quand arrivent les nuages dans la vie, c'est « courage, fuyons ». Mais celui qui se confie, non pas dans la pensée du monde, mais qui se confie dans la parole vivante de Dieu, il est solidement ancré sur les fondations. Les tempêtes peuvent venir, il peut être bousculé, on peut être molesté, on peut même fléchir, mais jamais on ne rompt, et jamais notre vie ne peut être enlevée. Éphésiens 4, 14, « Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'engagement, d'égarement. » Le « ainsi » a pour synonyme « comme ça », « de cette façon », « de cette manière ». Et donc, de quelle manière nous ne serons plus emportés ? Pour avoir la réponse, il faut regarder les versets qui précèdent et où Paul explique que l'édification du corps de Christ s'opère par les dons que Jésus a donnés à son Église. Jésus a donné des dons à son Église pour édifier le corps de Christ et pour l'enraciner dans l'enseignement de la parole. Maintenant que nous avons vu ce que le monde propose et ce que cela peut engendrer dans la vie du disciple, voyons ce que l'Écriture enseigne sur ceux qui... sur qui nous sommes et quels sont les impacts dans notre vie chrétienne. Je vous propose de lire, d'ouvrir la parole dans Colossiens, au chapitre 3, versets 1 à 5. Colossiens, chapitre 3, du verset 1 à 5. Et ce matin, c'est le texte que nous prendrons pour le méditer et voir ce que nous pouvons apprendre sur notre identité. Colossiens 3, versets 1 à 5. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. » La lettre aux Colossiens a justement été écrite pour aider les chrétiens de Colosse à résister aux influences extérieures, aux fausses doctrines et aux pressions culturelles de leur époque. Les sources montrent que Paul les avertit contre des enseignements qui cherchaient à les séduire, des enseignements qui cherchaient à corrompre leur foi. Les lettres de Paul envoyées aux différentes églises sont souvent structurées de deux parties. La première partie est une partie doctrinale, théologique, qui expose les vérités bibliques que l'Église a besoin de connaître pour pouvoir vivre, pour pouvoir fonctionner. Et ensuite, Paul, dans la seconde partie, expose, et cette partie-là vise à utiliser ces vérités indispensables qui permettront de pouvoir vivre une vie véritable de disciples de Christ. Ici, au verset 1, Paul rappelle un fondement indispensable de notre identité. C'est que nous sommes ressuscités en Christ. C'est parce que nous sommes ressuscités en Christ que nous sommes devenus une nouvelle créature. De Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Savez-vous qui sont les gens qui ressuscitent? Exactement. Les gens qui ressuscitent, ce sont ceux qui sont morts. Et c'est ce que Paul rappelle au verset 3. Nous avons connu la mort spirituelle, mais nous avons connu aussi la résurrection spirituelle avec Christ. À quel moment? Lors de notre conversion, lors de notre nouvelle naissance. Nous sommes ressuscités en Christ. Notre mort et résurrection en Christ nous permet d'être unis et en communion avec lui pour toujours. Nous sommes morts à nous-mêmes, mais c'est en Christ que nous ressuscitons. Nous devenons enfants de Dieu et nous sommes en communion avec Christ. La seconde partie du verset 1 et le verset 2, Paul montre la responsabilité du disciple. Quelle est-elle? Premièrement, de rechercher les choses d'en haut. Et secondement, de s'attacher aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Rechercher les choses d'en haut nous permet de ne pas avoir nos yeux fixés sur celles de la terre. Alors, un exemple concret de la vie de tous les jours, c'est comme à moto. Ceux qui sont motards ici le savent bien. La meilleure manière de se prendre un mur, ou bien un fossé, ou de rouler dans un trou, c'est de fixer ses regards dessus. C'est pour ça que les moniteurs de moto vous diront que la moto va toujours là où va votre regard. Il en va de même dans notre vie spirituelle. Nous nous dirigeons là où nous regardons. Pierre l'a très bien expérimenté dans la tempête. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il était sain et sauf. Mais quand il a commencé à détourner ses yeux de Jésus, c'est là que ses problèmes ont commencé. Alors il me semble bien que si nous fixons nos regards en haut, on ne peut pas fixer nos regards en bas. Vous êtes d'accord avec moi? Alors oui, plus on se nourrit de la parole de Dieu et plus on s'attache aux choses d'en haut, plus notre foi grandit. Cependant, plus on passe son temps à regarder et à écouter les choses du monde, et plus on a de chances d'être attrapé dans la ruse et la séduction du monde. Mais aussi, on a aussi plus de chances, malheureusement, de pécher. En soi, il n'y a rien de mauvais à cela. Mais ce qui devient un piège et qui met notre foi en danger, c'est quand cela prend la première place dans notre vie. Ça prend la première place, ça prend la place de notre communion avec Dieu, ça prend la place de notre temps de méditation, de la parole de Dieu, ça prend la place de nos moments de prière. Mais Paul, dans le verset 1, nous dit comment est-ce qu'on peut réussir et quelle est notre ressource. Il est dit où Christ est assis à la droite de Dieu. Paul nous dit que la seule ressource disponible pour le disciple, pour le croyant, elle se trouve à la droite de Dieu en son Fils Jésus-Christ. Alors voyons ce que nous pouvons trouver à la droite de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à cela? Exode 15, verset 6. Ta droite, ô Éternel, est magnifique par sa vigueur. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Nous trouvons la puissance de Dieu. Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondance de joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Nous trouvons la satisfaction. Psaume 48, 11. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre, ta droite est pleine de justice. À la droite de Dieu, nous trouvons la justice. Psaume 63, verset 9. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. À la droite de Dieu, on trouve le soutien. Psaume 98, verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des miracles. Il sauve par sa droite et par son bras qui est saint. À la droite de Dieu, nous trouvons le secours. Psaume 109, verset 31. Car il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui le condamnent. À la droite de Dieu, nous trouvons la défense. Et le meilleur pour la fin, Ésaïe 41, verset 10. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Amen. Voilà tout ce qui est disponible à la droite de Dieu. Alors fixez nos regards à la droite de Dieu, c'est savoir ce qui est disponible afin de pouvoir, dans les moments difficiles, être secouru, défendu, être satisfait en Christ. Dans ce commandement de Paul, nous pouvons trouver en Jésus-Christ tout ce que nous avons besoin pour être un disciple fidèle et véritable. Après, au verset 3, Paul donne la raison. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Dans ce verset, Paul souligne la raison pour laquelle nous devons vivre dans les lieux célestes. Car nous sommes morts à notre vieille nature et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà ce qu'un pasteur dit sur ce verset 3. Il dit, en grec, l'idée principale est celle du coffre-fort. En fait, notre vie est scellée, protégée, gardée. Rien ni personne ne peut nous arracher de la main du Père. Fin de la citation. Quelle assurance incroyable, non ? De savoir que nous sommes scellés dans un coffre-fort, que notre vie est cachée en Christ. Ici, nous voyons bien que notre appartenance est donc irréversible, notre appartenance à Christ, puisqu'il nous a scellés de son Saint-Esprit. Si notre vie est cachée en Christ et que Christ est à la droite de Dieu, où est-ce que nous sommes actuellement ? Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. C'est là tout le paradoxe. Bien que nous soyons physiquement sur la terre, spirituellement, nous sommes déjà dans les lieux célestes. C'est une assurance, c'est un acquis. Éphésiens 2, 6, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Paul, au verset 4, montre que nous ne serons pas cachés éternellement en Christ, mais qu'un jour, Christ révélera au monde entier toutes celles et ceux qui lui appartiennent. Cette promesse fait partie de notre espérance et nous permet de nous rappeler que nous sommes que des étrangers sur cette terre. Cette promesse de notre révélation au monde entier nous rappelle que nous sommes dans le monde, mais que notre patrie n'est pas ici-bas, mais qu'elle est avec Christ dans les lieux célestes, et ce pour l'éternité. Ce verset-là nous rappelle aussi qu'un jour Jésus viendra nous chercher. La Bible appelle ça le jour du Seigneur. C'est le jour où Jésus nous fera justice devant tous les hommes. C'est le jour où Jésus jugera toutes les nations, où Jésus jugera tous les êtres humains, depuis Adam jusqu'au dernier. Alors, pour conclure, J'ai écrit comme titre de ma conclusion « Une identité qui découle de la croix ». Avoir et connaître le fondement solide de ce que nous sommes en Jésus-Christ, comme nous venons de le voir avec Paul, nous permet d'être engagés pleinement dans le chemin de la sanctification. J'aime bien la définition de la sanctification d'un pasteur qui dit « La sanctification, c'est devenir ce que l'on est déjà. » Notre engagement ne dépend pas de contraintes extérieures, mais du fruit de notre identité enracinée dans le fondement de la parole. Enracinée dans les réalités spirituelles que Christ a obtenues pour tous les croyants à la croix et par sa résurrection. On ne s'engage pas pour avoir une identité, on s'engage parce qu'on a reçu une identité. Et cette identité est en Christ et en Christ seul. C'est parce que nous sommes saints, c'est parce que nous sommes sans faute, c'est parce que nous sommes morts au péché que nous devons travailler à notre sanctification, que nous devons combattre le péché en nous, que nous devons à chaque jour faire mourir le vieil homme et que nous devons porter à chaque jour du fruit digne de la repentance. Et le verset 5 de ce passage, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » Le début de ce verset 5, vous avez ce petit pronom « donc ». Ce « donc » découle de tout ce que Paul a expliqué et démontré dans les versets précédents. Dit autrement, c'est parce que nous sommes morts au péché que nous pouvons faire mourir en nous tout ce qui est terrestre. C'est parce que spirituellement, c'est déjà une réalité qu'alors nous pouvons marcher dans le chemin de la sanctification sur le fondement solide de la parole de Dieu. C'est parce que Christ nous a ressuscités et que nous sommes assis avec lui que nous pouvons continuer notre engagement de disciples. Mais le contraire n'est certainement pas vrai. À savoir que ce n'est pas parce que nous essayons de faire mourir en nous le vieil homme, que nous essayons de faire... que nous essayons de marcher dans la sanctification, que notre identité est en lui. Ce n'est pas parce que nous faisons telle et telle œuvre que nous avons la foi. C'est parce que Dieu nous a donné la foi, c'est parce que Dieu a déjà tout accompli à la croix en Jésus-Christ que nous pouvons faire des œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est parce que nous avons reçu une identité en Christ que nous pouvons faire ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas parce que nous faisons les choses que nous recevons une identité. Et parce que Christ a déjà tout fait, a déjà tout accompli, il n'a rien à rajouter. Et c'est cela qui fait notre force, c'est cela qui nous permet d'être appuyés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et quand vient la tempête, quand viennent les difficultés, quand viennent les moments difficiles, alors je sais en qui j'ai cru, je sais qui je suis, non pas parce que je suis parfait, vous l'avez bien vu et vous le savez, mais c'est parce que Christ a déjà tout accompli et c'est une réalité spirituelle. Colossiens 1, versets 12-14. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Si cela n'était pas le cas, alors le christianisme ne serait rien d'autre qu'un ensemble de règles. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et donc, ce n'est rien d'autre qu'une religion humaine basée sur le mérite humain et non pas sur l'œuvre exclusive de Jésus-Christ à la croix. Mais gloire à Dieu, Jésus a tout accompli parfaitement à la croix, ce qui nous permet aujourd'hui de vivre pleinement un engagement basé non pas sur nos mérites ou nos œuvres, mais sur l'œuvre de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour que nous puissions être justifiés, pour que nous puissions être saints, pour que nous puissions être sans péché, pour que nous appartenions à sa famille et soyons enfants de Dieu. Alors si ce matin tu te poses des questions sur ton identité, sur le pourquoi de la vie, sache que Jésus a pris sur cette infâme croix tous tes péchés. Et il t'appelle ce matin à répondre favorablement à son amour. Parce que Jésus souhaite te réconcilier avec Dieu le Père pour te donner la vie éternelle et ainsi t'éviter l'enfer pour l'éternité. Et l'enfer qui est quoi ? C'est être séparé de Dieu pour toujours. Ce cadeau de Dieu fait à l'humanité est un don gratuit que personne ne méritait. Mais dans son grand amour, Dieu nous a fait miséricorde, Dieu nous a choisis afin de devenir ses enfants. Il nous a choisis comment ? En envoyant Jésus pour nous sauver d'une mort certaine. Frères et sœurs, c'est parce que nous connaissons la parole de Dieu, c'est parce que nous savons qui nous sommes en Christ que nous pouvons avancer dans notre chemin de sanctification. D'où l'importance, et je ne cesserai de le dire, de pouvoir à chaque jour méditer, manger la parole de Dieu afin de grandir, afin que notre vie spirituelle puisse s'affermir de jour en jour, afin qu'on puisse avancer pas à pas, et quand les tempêtes arrivent, les difficultés arrivent, se souvenir, plonger de nouveau ses regards sur les promesses de Dieu, savoir où nous sommes actuellement, cette réalité spirituelle que nous sommes déjà en Christ, à la droite de Dieu. Cette réalité que Jésus-Christ viendra nous chercher et qu'il cessera toutes ces guerres, qu'il cessera ce monde, qu'il effacera à jamais nos fautes, qu'il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Je vous propose de prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle qui nous sommes en Christ. C'est parce que nous sommes morts en Christ et que nous sommes ressuscités en Christ que nous pouvons, Seigneur, nous tenir ce matin saints devant toi, sans faute, purs, non pas parce que nous avons bien agi cette semaine, mais simplement parce que le sang de Jésus nous purifie là de tout péché. Seigneur, merci de nous rappeler à chaque jour qui nous sommes en toi, ce que tu as fait pour nous. Nous qui étions pécheurs, nous qui ne te cherchions pas, tu es venu nous chercher dans notre bout du péché afin de nous donner cette vie éternelle en Jésus-Christ. Tu nous as déplacés du monde, du royaume des ténèbres jusqu'au royaume de Dieu, là où la lumière resplendit à jamais. Seigneur, c'est quelque chose que nous ne pouvons comprendre en tant qu'humains, mais nous pouvons simplement te dire merci, être reconnaissant pour cela, Seigneur. Parce que c'est quand nous étions pécheurs que tu es venu, c'est quand nous étions rebelles que tu es venu, c'est quand on ne cherchait pas, tu es venu. Merci, Seigneur, pour cet amour, cette miséricorde manifestée à la croix, qui nous permet, Seigneur, encore aujourd'hui de tenir. Aide-nous, Seigneur, à tenir chaque jour. Je demande d'encourager mes frères et sœurs qui sont peut-être dans des expériences, des difficultés, Seigneur, et que tu puisses ainsi, Seigneur, te révéler, afin que ton nom seul soit glorifié, Seigneur, dans nos vies, afin que nous puissions rendre gloire à toi seul, Père éternel, pour ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu nous as donné une famille, tu nous as donné, Seigneur, des frères et sœurs sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Et nous en avons besoin, Seigneur. Tu as donné des dons à tout le monde afin que, ensemble, nous puissions être édifiés. Ensemble, ton Église puisse être édifiée afin, Seigneur, de pouvoir grandir, de pouvoir avancer, de pouvoir mûrir dans la foi. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci parce qu'elle est vivante, parce qu'elle parle à nos cœurs, que nous puissions la méditer à chaque jour, Seigneur, afin de rester ancrés fidèlement sur ta parole, sur ce fondement des apôtres et des prophètes que tu nous as laissés, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen.